Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
De la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, on est avec la compagnie Unsophisticated Ladies, si je l'ai bien prononcé, j'espère. Et plus précisément donc avec Clara Boffi.
Enchantée, bonjour.
Donc la directrice artistique et au chant. Fabien Mille.
Bonjour.
Donc c'est la direction musicale, si je ne me trompe pas, et,
le,
et pianiste. Et Amélie Etévenon, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom de famille.
Amélie Etévenon.
Etévenon. Donc la metteuse en scène. Et donc on va enchaîner tout de suite avec une première musique. Donc aujourd'hui on va entendre que les musiques arrangées par votre compagnie, qui sont donc des reprises des musiques originales. Et on commence tout de suite avec I Must Have That Man.
Don't want my nanny, I don't need a friend. My heart is broken, it won't ever mend. I ain't much caring, just where will I end? And I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful, it's time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat, but I must have that man. He's hot as Hades, ladies, not safe in his arms when he kisses. I feel kissed, but I'm afraid that I'll be cooled off and maybe I'll rule off his list. And of course I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human and if he's to be had, I just must have that man.
On vient d'écouter un arrangement de I Must Have That Man, donc interprété notamment à la voix par Clara qui est avec nous aujourd'hui. Et donc ce spectacle il sera joué le 11 mars à Eve et comportera une première partie dont, dont malheureusement la personne qui organise ça n'est pas là avec nous aujourd'hui. Donc Jamil Marouche, il me semble, mais je pense que Clara, tu nous en parleras un peu mieux.
Tout à fait, de la FAB des Arts, l'association étudiante qui va, avec laquelle on a fait un partenariat pour cet événement.
Et donc, on va revenir un peu au spectacle. Déjà, bon, première question, comment le projet est né?
Alors,
d'où c'est parti?
Tout à fait. J'ai été invitée à chanter pour un orchestre, avec un orchestre, le Harlem Swing Orchestra, qui proposait une nuit au Cotton Club. C'est un spectacle sur Duke Ellington, ses œuvres, et donc une sorte de spectacle documenté, avec une personne, André Venzo, qui a écrit un livre superbe sur Duke Ellington. Et donc reprend des anecdotes et un petit peu les œuvres qui ont été jouées dans ce spectacle. Et donc j'étais invitée à chanter quelques-uns des titres. Et puis de là est née l'envie d'entendre aussi. Je me disais, mais on cite plein d'hommes géniaux. Où sont les femmes? Et donc j'étais très curieuse de voir et d'écouter, savoir ce qui avait été fait à l'époque entre les années 30-40. Et donc, très curieuse, j'ai été rechercher un petit peu tout ça. Et je me suis dit, mais il y a de la matière à faire un spectacle que de leurs œuvres. Et donc, je voulais mettre en avant toutes ces femmes dont on entend très peu parler, finalement. Et donc, bien sûr, on a parlé en équipe et on s'est dit, ah, et si on racontait leurs anecdotes, leurs vécus et tout ça, mais sans faire de façon narrative, plutôt le jouer. Pourquoi pas prendre ces anecdotes qu'on a lues et les mettre en scène et le faire vivre au public. Et donc, on a fait appel à Amélie, super metteuse en scène.
Ouais, voilà. Oui, du coup, moi je suis arrivée au moment où il a été question de la construction dramaturgique du spectacle, à savoir comment on met en scène une histoire qui se reçoit comme un récit et pas simplement comme une sorte de conférence ou de truc juste informatif. Donc d'apporter une dimension émotionnelle, une dimension affective aussi en lien avec les personnages, comment on crée des personnages, qu'est-ce que porte chacun des personnages. Et donc ces personnages, ils se sont construits, comme le dit Clara, à partir d'une recherche, donc de récits véritables. Mais en fait, le personnage qui est incarné par Clara dans le spectacle n'est... Il est un peu toutes les femmes, toutes musiciennes à la fois de l'époque. Il reprend un peu des anecdotes de l'une, de la vie de l'une ou de l'autre pour faire une sorte de synthèse qui est représentatif de la place des femmes dans la musique, dans la société de l'époque. Et ce qui a été très étonnant, enfin pour moi en tout cas, c'est que les femmes de l'époque dans la musique sont complètement invisibilisées aujourd'hui. On s'imaginait qu'il n'y en avait pas. Et en fait, en faisant des recherches, et quand Clara arrive en disant « Ah, j'ai trouvé telle chanteuse, il y a tel moment, tel truc », on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes musiciennes, compositrices, chefs d'orchestre entre les années 30 et 40 dans le jazz, et qu'elles sont complètement oubliées aujourd'hui, mais elles étaient très actives, elles travaillaient, elles avaient vraiment...
Gagné leur vie avec ça.
Elles gagnaient leur vie, elles avaient une place, alors qui devait être certainement très difficile à prendre, mais en tout cas, il y avait des groupes exclusivement féminins, il y a des femmes d'eux, on pense à Lil Armstrong, la femme de Louis Armstrong, qui a composé des choses pour lui, grâce à qui Armstrong a fait sa carrière, et en
son
fait,
manager.
On ne le sait pas du tout. Donc voilà, et c'est, du coup, l'idée du spectacle, c'est de mettre en scène ça, mais de façon très cathartique, on va dire, où il y a l'idée de mettre le public en immersion, d'abord dans l'époque, de s'imaginer qu'on est dans le Cotton Club, qu'on est dans cet espace-là où on vient voir un concert, et que dans le cadre de ce concert, de cette soirée à laquelle est convié le public, on l'amène à découvrir chacun des personnages, un peu les uns à la suite de l'autre, ou tous ensemble, dans leurs relations, dans leurs enjeux personnels, et d'avoir une découverte, une réception des informations qui soit plus de l'ordre de l'émotionnel et de l'affectif que de l'ordre purement didactique, quoi. Voilà.
Et donc on a effectivement créé le personnage de cette vendeuse de cigarettes qui pourrait incarner justement toutes ces personnalités de par son métier et qui va avoir une certaine place. Je ne vous révèle pas tout.
Oui, peut-être on peut faire un petit pitch quand même, parce que je ne sais pas si les gens savent de quoi on parle.
Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement dans l'histoire ? Donc, on a une vendeuse de cigarettes qui travaille dans un jazz club aux États-Unis. On s'imagine quelque part à New York dans cette époque des 1930-40. Et puis, donc, les titres qu'on a choisis racontent une histoire, leurs paroles racontent une histoire, et elles sont d'enregistres où on a des artistes qu'on va découvrir par leurs œuvres. Et pour parler des œuvres, qui est le mieux placé que Fabien Mille, directeur musical du projet.
Donc effectivement, l'histoire, c'est un orchestre qui est résident en fait dans un jazz club, qui joue le répertoire un peu classique. Et à un moment de l'histoire, il y aura un tournant. Est-ce qu'on révèle tout ici?
Non,
ou pas?
Absolument.
Il se passe quelque chose, il y a une sorte d'instabilité en fait dans ce groupe par le contexte, et du coup on va arriver à une autre situation,
une
opportunité. Et encore une fois, c'est tout est très documenté. Si je veux parler un petit peu des répertoires, donc effectivement ce sont des compositions de l'époque, majoritairement écrites par les femmes, enfin par les femmes de l'époque du coup, qu'on nous on a réarrangé parce qu'on n'a pas forcément l'orchestration de l'époque, et puis voilà, l'idée c'était pas de remettre au goût du jour, puisqu'on garde l'esprit du swing, ce qu'on appelle le vieux style, le vieux jazz. Et en termes d'instrumentation, donc il y a 7 musiciens sur scène, c'est-à-dire une rythmique, ce qu'on appelle une rythmique en jazz, c'est-à-dire piano, contrebasse, batterie. Et puis la front line, c'est-à-dire les soufflants, il y a 2 saxophonistes, un saxophoniste ténor et altiste, et une trompette et un trombone. Voilà, donc c'est une formation, c'est pas le big band, c'est pas la petite formation en quartet, en quintette, c'est un peu entre les deux. Duke Ellington a joué avec ce genre de formation, mais effectivement il a fallu adapter un petit peu tout ce répertoire. Il y a à peu près, il doit y avoir 45 minutes de musique à vue de nez.
Tout à fait, le spectacle dure 1 heure. On a aussi des super musiciens, moi je l'ai souligné parce que...
Voilà. Parce qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui.
Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais on les entend bien sur scène, hein, on les entend bien. Les soufflants, on a donc Vincent Stéphane, on a Yvan Baldet, on a J.B. Perez, Yvan Lemaire, et puis Tariq Hassan à la contrebasse. Laurent Chaufflet à la batterie, et puis Fabien Mille au piano. C'est tous des super musiciens qui enseignent ici dans les conservatoires de Saint-Martin-d'Air, de Cessiné, de Mélan. Et donc vous allez entendre de la super musique, et puis c'est contextualisé bien sûr dans une histoire qui est un petit peu rigolote quand même, malgré le sérieux des enjeux.
Oui, parce que ces musiciens ont aussi révélé leur talent de comédien dans le cadre de la création de ce spectacle.
Oui, parce que en fait, au final, ça change quand même d'un spectacle assez classique. Vous alliez quand même concert et théâtre en même temps. Ça a été dur au début à mettre un peu en scène ou à s'adapter aux deux rôles.
Alors,
je peux peut-être.
Vas-y.
Alors. Je félicite Amélie, parce qu'effectivement, c'était pas facile pour elle, qui est la metteuse en scène, donc qui nous a encadrés pour ça. Elle est partie des personnalités de chacun, on peut révéler ça peut-être, en tout cas une partie de personnalité de chacun, pour que nos personnages collent le plus possible avec notre façon d'être. C'est pas facile de devenir acteur en quelques mois, même en un an. Et puis effectivement, l'idée c'est que ça soit très vrai en fait. Donc voilà.
Et on s'est inspiré effectivement des enjeux aussi dans les anecdotes qui relient certaines musiciennes, certaines chefs d'orchestre, compositrices, avec leurs partenaires, souvent musiciens. Et donc on a un petit peu creusé aussi sur les personnalités masculines de l'époque pour pouvoir voir quels traits de caractère naturels des musiciens qu'on avait dans notre orchestre à nous, et de faire matcher un petit peu les anecdotes, les enjeux. Donc il y avait des travailleurs du PWA, qui étaient les travailleurs d'État. Bon, j'en dis pas plus, mais enfin, c'est des...
C'est dur de raconter sans spoiler. Hein.
Tout à fait, ouais, effectivement. Et je m'arrête là, simplement parce que c'est vraiment du théâtre musical documenté. C'est pas documentaire parce qu'après on se lâche, mais c'est inspiré vraiment de faits et de faits historiques.
Vous avez pris combien de temps pour la conception avec toutes les recherches et tout ça, parce que enfin ça a l'air très très précis comme enfin vous avez l'air au point jusqu'au bout du bout.
Ça fait à peu près.
Ça doit faire 2 ans maintenant. On doit arriver dans la deuxième année. Entre le tout démarrage et puis les résidences qu'on a fait, les arrangements, parce que c'est un travail aussi qui prend du temps.
Beaucoup de temps.
Puis après les répétitions, les re-résidences.
On a été accueillis effectivement en septembre dernier.
Septembre de l'année dernière.
De l'année, il y a 2 ans. donc au château de Goutelas.
Okay.
Pour les journées du patrimoine. Et donc, on a été très chaleureusement accueillis. On les remercie encore. C'était vraiment une superbe opportunité. On a fait un partenariat avec Jazzra aussi, qui avait une exposition en même temps sur ces femmes. Et donc, c'était génial parce qu'on a vraiment une documentation. Et c'est là où les partenariats, pour moi, c'est super important. Et cette année, on va le faire avec la Fab des Arts, une association du campus avec des étudiants en théâtre, en art de la scène, qui vont pouvoir présenter des scénettes en première partie, justement sur les enjeux, du spectacle, et vraiment voilà, faire un partenariat avec ça. Donc la résidence qu'on a fait à Château de Goutelas nous a vraiment permis de travailler vraiment les personnages, les interactions entre eux, et puis bien sûr nous apporter une musique de qualité.
Et puis de mettre aussi ce qui est très important dans ce spectacle, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la musique et le théâtre, un peu sous la forme d'une comédie musicale. C'est-à-dire que c'est pas les deux séparés. C'est pas un spectacle musical avec des intermèdes de théâtre, c'est pas un spectacle théâtral avec des intermèdes musicaux. On a vraiment travaillé de façon à articuler la musique et les parties théâtralisées de façon à ce qu'elles se complètent et qu'elles soient toutes au service du récit. Et c'est pour ça que Clara disait tout à l'heure au début de l'émission que les paroles des chansons racontent quelque chose.
Oui.
Et donc, elles sont de façon très pertinente mises en place dans le spectacle de façon à ce qu'elles suivent le récit et ce qu'elles apportent aussi un élément dramaturgique dans le déroulement de l'histoire, dans les enjeux, soit en termes d'action, soit en termes d'émotion. Exactement comme dans une comédie musicale. Et ça a aussi beaucoup porté les musiciens dans le cadre de leur mise en jeu théâtrale, parce que là, pour le coup, ils étaient vraiment en force et dans leur pleine compétence et dans leur élément pour interpréter la musique de façon à ce qu'elle raconte quelque chose. Et ils ont pu aussi s'appuyer dessus, sur la façon d'interpréter la musique pour construire leur personnage et pour faire un lien... mettre du liant dans tout ce récit là.
Voilà. D'autant plus que dans le jazz, on a une grande part dans l'interprétation qui est improvisée. Les solos sont souvent improvisés. Et là, effectivement, le fait d'inclure ça, c'était vraiment une grosse nouveauté, je pense, pour les musiciens, c'est d'inclure un titre dans une narration fait que tu vas pas le jouer de la même manière, y compris dans ton improvisation. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment chose qu'on a beaucoup travaillé.
Dans l'ambiance générale du morceau.
Exactement.
Ça change du tout au tout.
C'est d'autant plus important que les morceaux sont en anglais.
Oui, c'était ma prochaine question.
On prend le parti pour l'instant, c'est pas complètement tranché. On est encore en discussion. On prend le parti pour l'instant de ne pas traduire, mettre des surtitres, des sous-titres, des paroles des chansons. Parce que dans l'interprétation, dans la façon de le jouer, l'émotion et le message principal de chaque musique est reçu dans la musique. Oui. Et pour moi, c'est ça aussi la force de la musique. C'est qu'elle raconte autrement qu'avec des mots. Ce qu'elle porte émotionnellement, ce qu'elle porte dans son sens. Et on s'appuie plutôt là-dessus pour la mettre au service de l'histoire que sur des paroles. Donc ça, si on comprend, ça apporte une plus-value, évidemment. Mais dans l'interprétation, même si on ne comprend pas un seul mot d'anglais, on peut quand même recevoir le sens de la chanson.
Et c'est pour ça que ce spectacle, il est construit. Mais je pense qu'un spectacle comme celui-ci pourrait évoluer dans une phase 2, j'aurais envie de dire, pour justement, avec les retours des étudiants, comment eux feraient. Moi, je suis en master en création artistique ici à l'UGA, avec des supers équipes, comment on peut traduire de façon artistique et puis visuellement intéressante et que ce soit enrichi pour que tout le monde y ait accès. et accès à la, aux métaphores qui sont tellement subtiles et riches dans les paroles. Donc c'est en constante évolution, et donc si on pourrait effectivement avoir un partenariat avec une des salles grenobloises, ça nous permettrait de travailler cette deuxième phase de la recherche artistique et de pouvoir, grâce au retour qu'on avait eu aussi notamment en juin dernier quand on avait présenté ce spectacle pour les enseignants de l'INP. Donc on avait pu avoir leur retour sur toute cette, je dirais, réflexion globale et collective sur comment faire comprendre à tous différents enjeux qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
Ah oui. Et du coup, vous avez déjà joué le spectacle ou c'est
plein de fois.
Okay. Ou c'est la première fois le 11 mars.
Alors, ça va être la première fois à Ève.
Ouais.
mais on sera ravis, bien entendu, de revoir nos collègues. Alors, on adresse ce spectacle vraiment aux étudiants, au personnel enseignant, aux programmateurs des différentes salles que j'ai pu contacter individuellement. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir une belle rencontre entre un univers d'apprentissage, de formation, et comment on peut utiliser ce spectacle comme outil aussi de médiation. Pour moi, c'est un peu l'objectif de cette création, c'est de pouvoir l'utiliser comme prétexte pour entrer dans les classes et voir comment, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message grâce à une création, comment on peut intégrer différentes personnes à s'exprimer et avoir son mot à dire quand c'est pas utilisé, enfin, pas forcément fait par les mots, mais par la musique et par d'autres formes d'expression.
Et très bien. Et ben, tout de suite, on va écouter un autre morceau. On va écouter Shout Sister Shout, que je ne prononce toujours pas bien parce que mon accent anglais est un peu parti
magnifique.
En vacances.
Voilà.
Shout, sister, shout. Shout, sister, shout. Shout, sister, shout. Whoa, whoa, what it's all about.
Now listen everybody to the precious words. I'm gonna do some tripping and I ain't no bird. There's a reason for living, a reason for dying, a darn good reason why a woman starts crying, a reason for a mole, a reason for a dimple, but there ain't no reason why a man's so simple.
Shout, sister, shout.
I'm telling ya.
Shout, sister, shout.
Oh yeah.
Shout, sister, shout. There's a whole world, what is it all about?
There's a way to be brilliant, a way to be a fool, a way to get to heaven and observe the golden rule, a way to get a sweetheart, a way to get a wife, but the day you quit me, brother, that's the day you lose your life.
Shout, sister, shout.
Oh boy.
Shout, sister, shout.
Come on now, tell me now.
Shout, sister, shout. Then world, world, what is it all about?
There's a reason for a mountain, a reason for a hill, a reason why a doctor gives a patient a pill, a reason to dance, a reason to sing, but there ain't no reason why a band can't swing.
Understand why a rat eats cheese. I can understand my dog. I can understand your cat. Well, feel me full of rhythm. Can you understand that?
Shout, sister, shout.
Hallelujah, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Oh, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Let the world, world, what it's all about.
Et vous êtes toujours sur la 90.8, vous écoutez toujours l'apérophonie. Et on est toujours en train de parler de la compagnie Unsophisticated Ladies. J'ai du mal. Et je vous ai même pas demandé, pourquoi le pourquoi le nom.
Ah. Alors, on a réfléchi avec ça sur le nom avec André Venzo lors d'une belle rencontre chez lui. C'était super, super rencontre avec Amélie et Thévenon. Et donc on réfléchissait sur ce que signifiaient les sophisticated ladies à l'époque. Et il y avait un grand titre
de Duke Ellington, ouais.
Voilà, mmh. un titre qui était assez connu. Et puis le "on" entre parenthèses, ouais. C'est pour parler de toutes ces personnes qui sont derrière et dont on ne parle pas et qui n'étaient peut-être pas assez sophistiquées justement pour être vues, entendues en front line. Et le souhait, c'était de pouvoir parler voilà, du dessous des cartes.
Ok, bah, très bien. Et en fait, vous êtes tous... Enfin, cette volonté de faire du jazz, vous avez tous des formations un peu jazz à la base, même au niveau des musiciens ou...
Alors souvent quand on apprend un instrument de musique, c'est pas forcément directement dans le jazz.
Ah, ça dépend. Ça, après ça dépend ça peut, lequel. Hein.
Oui,
parce
oui.
que les, en vrai les trompettes, saxophones, ça peut. Hein.
Oui, 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 mais c'est vrai que la forme, enfin en tout cas à nos âges, comme dirait l'autre, à nos âges, le jazz n'était pas enseigné en première année d'un okay. instrument, donc on a tous une formation classique, je dirais plus ou moins longue. Et toute cette bande de copains musiciens, à un moment, se sont passionnés de jazz et de ce style de musique. Et puis, à force, on s'intéresse à la chose. Et puis, petit à petit, on fait des concerts, etc. Donc après, je peux en citer qu'un. Par exemple, Yvan Baldé, il a un compte YouTube où il a quoi je ne sais plus combien d'abonnés. Je crois que c'est 1 ou 2 millions d'abonnés parce qu'il est passionné Scott Hamilton, c'est un grand saxophoniste encore en activité de jazz, ténor. Et donc il fait des relevés, il en parle, etc. Enfin, il en parle pas trop parce que c'est pas son genre d'en parler. Mais il poste donc sur sa chaîne et on peut considérer que c'est un des spécialistes de Scott Hamilton qui joue aussi dans cette esthétique-là. Donc non, on a quand même des spécialistes, des experts dans cette musique et en plus c'est vraiment une bande de copains. Très appréciés, très appréciables, qui ont tous leur caractère aussi et leur histoire musicale. Et ça, je trouve que ça apporte vachement. Et je pense que du côté du public, on ressent, on a fait beaucoup de concerts justement avec le Harlem Swing Orchestra, on continue d'en faire. Donc on a vécu des trucs ou avec d'autres formations. Enfin, il y a une histoire entre chacun. La semaine dernière, on a fait quelques trajets en route et on se disait qu'on pouvait faire 800 km avec n'importe qui d'autre, on s'ennuierait jamais. On a toujours un truc à dire. Bon, il y a une vraie amitié dans ce groupe.
Il y a une vraie bonne ambiance entre vous.
Ouais.
Ouais.
Et puis c'est vrai que c'est d'autant plus difficile pour une personne qui a pas de formation musicale, qui faisait pas partie de la bande de potes au départ. Et c'est un petit peu aussi l'enjeu du spectacle parce que à l'époque, quand on regarde un petit peu les témoignages de ces dames, on rentrait vraiment dans un univers qui était assez clos.
Ouais. Et un milieu très fermé.
Voilà, exactement. Et donc, le fait de pouvoir rentrer, les portes n'étaient pas forcément grandes ouvertes, donc il fallait un petit peu défoncer les portes pour pouvoir rentrer, se faire une place. Et c'est un petit peu ce qui a inspiré ce spectacle, c'est cette même expérience. Et puis, personnellement, je fais un peu tout à l'oreille et j'ai pas eu de formation. Et donc, mais par contre, je suis passionnée et toutes les histoires et par les titres que j'ai entendus depuis que je suis jeune. On m'a proposé ces répertoires parce que la voix correspondait à des façons d'interpréter. Ils m'ont dit ah mais écoute ça. Donc petit à petit j'ai commencé à me faire une oreille là-dessus, okay. Mais sans parcours musical.
Ah, tu t'es auto-formée au chant, ouais. Ça c'est un parcours un peu, enfin c'est atypique comme parcours.
Ouais, et donc d'autant plus important de se sentir légitime dans un tel projet. Et puis, c'était aussi alors il y a certaines personnes, certaines artistes féminines dont on parle dans le spectacle qui ont eu ce parcours, elles étaient douées dès l'âge de 6 ans donc, dans l'écoute et puis et elles ont été formées, mais il y en a d'autres, c'est vraiment c'était pas forcément un parcours musical typique donc par les écoles et tout ça, donc c'était vraiment vraiment, c'est tout ça qu'on met en valeur finalement. Et l'idée, c'est que le public, une fois qu'ils ont reçu ce spectacle, ils se disent « Ah, oh, mais attends, mais je vais aller lire sur elle, je vais aller lire sur Lyda Snow, je vais aller voir. » Et comme ça, on aura un petit, sur notre site internet, on va pouvoir aller continuer de rechercher et de s'informer sur ces dames.
Et comment tu te sens, toi, d'avoir un peu ce rôle de représentation de toutes ces femmes ?
C'est un honneur. C'est un honneur et surtout, disons que j'ai un petit peu un caractère de cochon. Ce qui me permet d'affronter et de casser les portes pour pouvoir justement faire entendre, c'est surtout inspirer et de pouvoir permettre aux jeunes femmes aujourd'hui de se projeter dans cette musique, dans les choses qu'elles ont à dire, que ce soit par ce style musical ou par un autre. En tout cas, de pouvoir être inspirée par ce qu'ont fait ces dames, par la force de leur caractère, par leur ingéniosité. Par leur douceur, pour pouvoir naviguer puis contourner les obstacles et en le faisant de façon main dans la main finalement, pour pouvoir arriver justement à se faire entendre.
Oui, parce que on rappelle qu'en fait le sujet il est quand même toujours très d'actualité sur le fait de la présence des femmes, bon des femmes tout court, mais des femmes dans la musique. Qui est quand même encore un gros domaine d'hommes, parce qu'il me semble que le chiffre c'est 29%, 29 ou 30% de femmes dans le domaine musical.
Exactement.
Et c'est encore très peu.
C'est un questionnement, c'est ce qu'on souhaite que les personnes qui vont voir le spectacle ressortent et se questionnent et se disent « Ok, quelle est ma contribution individuelle pour que les femmes puissent être plus présentes ?» Et une porte ouverte, si je suis un homme, peu importe, quelle porte moi j'ai ouverte personnellement pour que cette personne puisse s'exprimer, quelles contraintes j'ai écartées, parce qu'il y a beaucoup, voilà, c'est jamais très volontaire, hein. C'est une conséquence d'une disponibilité ou d'une absence de disponibilité ou d'un rôle qu'on accorde aux femmes qui est décidé ou pas. Donc c'est cette place qu'on donne finalement, ou cette organisation, cette souplesse pour pouvoir permettre aux personnes qui ne font pas partie de la bande de potes, parce que le soir elles s'occupent d'autre chose, parce qu'elles ont d'autres responsabilités familiales, etc. Ou à l'époque, hein, c'était souvent un ou l'autre, parce que sinon on rentrait dans le moule de la femme qui s'occupe de la famille, ou pas de famille du tout. Donc aujourd'hui on est sur des formats hybrides assez complexes, les hommes aussi ont des enfants à charge. Donc en fait c'est plus un débat entre hommes-femmes, c'est un débat entre comment on va s'organiser en tant que collectif pour que tout le monde ait sa place.
Oui, je comprends. Et est-ce que pendant le spectacle, vous le dites que vous faites cet hommage-là, enfin, vous le dites que c'est un spectacle qui est un peu, bah, du coup, documentaire, ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent repartir du spectacle sans jamais avoir tilté que c'était ça et qui n'ont pas compris le fond, bah, par exemple, pour les gens qui prêtent pas attention aux chansons en anglais, notamment. Ouais.
Alors, ce qui est, on va pas vous révéler tout, mais
non, toujours pas.
Quand on a fait notre concert à l'INP l'an dernier pour la formation IDEX, hein, ils ont un séminaire et le sujet c'était l'enseignement par l'art, et donc ils devaient se questionner là, sur justement les différentes méthodes pédagogiques pour pouvoir poursuivre leur enseignement des langues de façon innovante. Et à la fin du spectacle, tout le monde était très très clair et ont été justement incités, d'une manière, je ne veux pas le dévoiler, mais à poursuivre leurs recherches sur des noms précis.
Ok, très bien. Et donc, j'ai dit à l'interlude musicale, mais je vais le redire ici. Vous disiez à un moment que c'était 45 minutes de musique, donc sur un spectacle de un peu plus d'une heure. Donc ça fait quand même une part de musique qui est très grande pour tout le spectacle. Comment vous avez trouvé un équilibre avec le théâtre, jouer est-ce qu'il y a des scènes qui se passent pendant que vous jouez de la musique, par exemple?
Ouais, tout à fait. Je parlais de l'interprétation de chaque titre. L'interprétation est vraiment liée à la dramaturgie. Donc les morceaux font partie du spectacle. Et entre, effectivement, on a des capsules théâtrales qui vont parfois... C'est pas des capsules. qui vont faire les tournants. Tout fait partie, en fait, de la narration.
En fait, le contexte du récit, c'est quand même un concert. Donc, rien que ça, le fait que l'histoire raconte une soirée de concert, ça justifie qu'il y ait autant de musique.
Oui.
Parce que voilà, on invite le public à venir assister à un concert pendant lequel les musiciens vont révéler les relations qu'ils ont entre eux et aussi les relations qu'ils entretiennent avec la vendeuse de cigarettes qui est elle-même musicienne, qui aspire à devenir musicienne. Et qui va entrer en interaction avec eux à travers ce désir-là de prendre sa place musicalement parlant. Et donc c'est autour de ces enjeux-là, de la place de chacun, à la fois dans l'orchestre, entre les hommes qui sont présents sur scène, et la vendeuse de cigarettes, comment chacun va révéler ses objectifs, ses enjeux de personnage, et les mettre en confrontation les uns avec les autres. Et ça se raconte dans les parties théâtrales, parce que c'est comme ça qu'on va voir les rencontres ou les échanges verbaux entre chacun des personnages, mais aussi pendant les parties musicales, parce que en fonction de leur état émotionnel et de leurs enjeux personnels, ils ne vont pas interpréter un morceau de la même manière, suivant si ils sont contents d'être là ou pas, ou s'ils viennent de se fâcher avec l'autre, etc.
Et voilà. Il y a des réels dialogues musicaux.
Oui, oui, bien sûr.
C'est-à-dire que dans les improvisations, on se parle en musique.
C'est comme dans une comédie musicale, en fait. Dans une comédie musicale, la musique, elle est vraiment au service du récit. Et dans des aspects qui peuvent être à différents niveaux, mais il y a des musiques qui font véritablement avancer l'action. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du récit, la musique, elle sert d'action au même titre qu'un dialogue ou une scène de combat, par exemple. Voilà. Elles vont révéler des animosités, etc. Ça peut être aussi des musiques qui vont marquer un temps de respiration suite à un gros moment émotionnel ou un temps d'introspection d'un personnage pour mettre en lumière ce que ressent un personnage à ce moment-là par rapport aux autres. Donc, c'est véritablement des éléments de compréhension et d'immersion, non seulement dans le récit, mais aussi dans la réalité humaine et profonde de chacun des personnages. Voilà.
Et donc, moi, je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui sont un peu en mode... Oui, mais moi, la musique, je comprends pas les émotions à travers la musique. Et vous pensez que pour des gens qui sont non aguerris à voir de la musique, à ressentir un peu la musique, l'émotion passe quand même à travers votre spectacle?
Il y a une façon de l'interpréter, la musique.
Oui, et je suis d'accord.
Mais c'est pas que l'interprétation musicale. C'est-à-dire que là, on voit les musiciens sur scène, on voit la façon dont ils se regardent, on voit leurs mouvements pendant qu'ils jouent. Et c'est toute une palette de langage non-verbal qui est aussi au-delà de la musique, qui peut accompagner les gens aussi dans la compréhension de ce qui se joue au moment de l'interprétation de ce morceau-là.
C'est d'ailleurs un retour qu'un des profs nous a fait en juin dernier, et ils souhaitaient utiliser ce spectacle dans leur classe pour les enjeux historiques, pour les enjeux de langue, mais aussi parce que c'était accessible. Et ils se sont dit... parfois, le jazz, ça peut être, on peut se dire, c'est le truc de vieux.
Ouais, le jazz, le classique.
Voilà, c'est ça. C'est
dans une catégorie vieux et ringard.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, là, c'est pas. L'idée, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on nous a fait comme retour, c'est que c'était hyper accessible. Et c'était. Ça génère des émotions assez fortes des fois, et on a envie de réagir, et on est impliqué, on peut pas rester indifférent à ça. Donc c'est, il y a vraiment une, donc cette lecture a été possible parce que le spectacle est accessible.
Oui, ça reste une introduction éducative qui est accessible, quoi.
Tout à fait.
Ok. Et sur tout le montage du spectacle, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés?
Entre vous,
vous vous êtes tous disputés, personne ne se parle après la première représentation.
Non, moi j'ai été très agréablement surprise de la rapidité avec laquelle les choses se sont montées d'un point de vue théâtral, par exemple. Et du coup, maintenant, quand on continue à travailler le spectacle, on approfondit, on affine. Mais quand on a été à Gutla, on a fait 2 jours de résidence et après on a joué. Un jour et demi même de résidence. Et on a joué. Moi, avant d'y aller, je me disais, non, mais c'est impossible, il nous faut une semaine, hein, ça va, on ne va jamais y arriver. Et en fait, en un jour et demi de travail, le spectacle, il avait une ossature déjà plus qu'avancée. Dans la place de chacun, dans les enjeux, dans la façon de chacun de rentrer dans son personnage. Et du coup, ça devient vraiment un travail de chaque fois qu'on retravaille maintenant d'approfondissement, ouais, de mise en place de subtilité.
C'est des petites précisions.
Voilà. Ouais, de petites précisions. Après, il y a aussi un travail d'affirmation dans le sens où il reste quand même encore certains musiciens pour qui ça reste une peur de faire du théâtre.
Oui.
Donc moi, ma stratégie, ça a été de leur faire faire du théâtre sans qu'ils s'en aperçoivent. Et ça s'est relativement bien passé.
Chut. Dire, tout le monde n'a pas le dire.
Ensuite, Yvan, n'écoute pas ça. Mais du coup, il y a aussi maintenant y a ce côté un peu réassurance où, de continuer à rentrer tranquillement dans le confort du jeu théâtral, oser avancer un peu plus et y aller un peu plus à chaque fois.
Et c'est même, je pense que ce projet nous a transformés nous-mêmes. Personnellement, il m'a donné énormément de force et ça m'a permis de construire une relation de confiance aussi avec les autres musiciens et je crois que c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on se fait confiance. Et dans ce processus de passer de musicien et aussi comédien et d'intégrer cette nouvelle dimension, ça a aussi donné une force à chacun des musiciens qui leur a permis de faire plein de choses dans la vie et je pense qu'on se nourrit mutuellement.
C'est l'union fait la force.
Voilà.
Et est-ce que ça vous permet aussi d'avoir un peu moins de pression par rapport à ce spectacle? Parce que est-ce que vous avez la pression déjà? Ça se trouve, vous n'avez pas du tout la pression.
Alors, c'est un régal à chaque fois. Hein. Pour moi, c'est vraiment un régal.
Bon, ouais. C'est un plaisir. Et surtout quand on partage la scène avec des copains, en fait, on sait qu'il peut tout se passer.
C'est que du kiff.
Bon, on se met la pression quand même, hein, mais en fait, on n'a pas de, par rapport au travail théâtral, on n'a pas de ligne de texte précise à apprendre. Enfin voilà, on n'a pas passé des heures à répéter des choses, etc. Donc, cette difficulté-là, finalement, une fois qu'on a bien identifié les enjeux, les relations, etc., ça reste de l'improvisation aussi théâtrale. Donc, bon, on fait en sorte qu'à la fin, on a une histoire qui va du début jusqu'à la fin. Et
que vous ayez quand même une trame.
Exactement. On a une trame, c'est pas que de l'improvisation théâtrale.
Quelquefois, il y a quelques petits oublis d'informations, voilà. Mais bon, ça se rattrape.
Mais en fait, pour revenir à la question, non, c'est vrai qu'on est sur scène avec des copains comme ça, qu'on a des grands artistes. Eh bien, ça va.
Non, ça va, en fait.
C'est vrai que ça, c'est, je pense, les années de travail derrière chacun des musiciens, ils enseignent, il y a une sorte de recul. Et quand on arrive à ce niveau de maîtrise d'un instrument, de sa musique, on passe vraiment à la zone de confort où on est vraiment dans l'expression et dans le partage. Et je crois qu'à chaque concert, c'est différent. Y a une énergie qui passe et puis cette énergie elle est nouvelle et c'est ce qui me nourrit moi personnellement parce qu'on le fait avec différents partenaires à chaque fois et on est vraiment nourri par ces contextes et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit appel si vous chantez et vous aimeriez participer au projet, n'hésitez pas à nous joindre et si vous dansez le swing et ben c'est le temps de sortir votre partenaire ou votre asso et venir
une asso carrément,
ouais, carrément. Ben, génial de pouvoir venir partager ce moment parce que c'est une soirée, donc le New York vient à nous vient à Saint-Martin d'Hères le 11 mars.
Et est-ce que les gens ont besoin d'avoir un niveau requis ou pas du tout?
Alors, et c'est pour ça que je tiens à la Unsophisticated Ladies, parce qu'on part du principe que tout le monde peut avoir sa voix, et après c'est à nous de faire une place et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient entendus à hauteur de leur capacité, bien sûr, on est tous pédagogues là-dessus, et donc avec grand plaisir, on ouvre nos portes.
Très bien, est-ce que vous êtes... Je vais poser une de mes dernières questions parce que j'aime trop poser cette question. Est-ce que vous êtes fière du projet, de comment ça a fini, même si c'est pas vraiment fini, de ce que je comprends?
Non, non, on est très très fiers. C'est un gros projet, c'est un espèce d'ovni du spectacle avec beaucoup de gens sur scène, avec du concert, du théâtre. Moi, je vois pas grand-chose. Je programme aussi au Jazz Club de Voiron, mais je vois pas grand-chose d'équivalent, même dans les grandes salles, hein, avoir autant de monde sur cette thématique et dans ce style-là. Je pense qu'on peut être très très fiers du chemin parcouru et j'espère qu'il continuera très très longtemps, mais en tout cas il y a beaucoup de travail qui a été fait et je pense qu'on est déjà, enfin moi je suis très satisfait en tout cas de là où on en est, parce qu'effectivement il y a 2 ans je pense qu'on n'y aurait pas cru.
C'est ça. Parti de loin.
Exactement. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu vertigineux parfois de se lancer dans des grands projets comme ça, parce que parfois on peut être drivé par une force intérieure, des souhaits, et après on gère de l'humain. On a aussi des musiciens professionnels qui sont très chargés, et donc on doit pouvoir apporter une unité, et puis de pouvoir continuer à naviguer ensemble et voilà, et prendre les mers quand elles sont huileuses et prendre aussi les mers quand il y a de la houle.
Il y a eu un fou rire en face, au milieu du dialogue. Tu as gardé ton sérieux sur tout le fou rire. Franchement, bravo. Eh ben, moi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter déjà ? Non, c'est bien, vous avez fait le tour de tout votre spectacle.
Bon, on salue toute l'équipe, tiens.
Ben oui, merci.
Qui ne sont pas là.
Carrément. Et donc, on pense à vous, on pense aussi aux étudiants et aux enseignants du campus. Et merci à Radio Campus de nous recevoir. C'est une super équipe. Et puis, on vous donne rendez-vous donc le 11 mars.
Et donc, juste avant de faire ma petite conclusion, on va écouter « Oh Baby, Maybe Someday ».
Oh babe, maybe someday.
Fin de notre apérophonie. Donc, pour rappel, on va voir le spectacle, concert. Ce sera le 11 mars à Ève. Alors, je ne sais pas s'il faut réserver ou si c'est entrée libre.
Alors, donc, l'affiche va circuler sur les réseaux. Vous pourrez simplement scanner le QR code qui vous amènera vers le lieu, enfin, le site où vous pourrez réserver. L'entrée est gratuite et ça, c'est grâce aux contributions des subventions du CROUS et de la direction de vie étudiante. Je souhaite aussi remercier Johan à Eve et bien sûr Zoé et Liam de Radio Campus pour pouvoir diffuser cette information et vous proposer ce spectacle gratuitement.
Ouais, merci beaucoup pour notre régie technique d'ailleurs.
Merci à eux.
Voilà, et on rappelle aussi que donc si vous faites du swing ou que vous chantez, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'ils doivent vous contacter ?
Tout à fait, compagnieusl@gmail.com. C'est plus facile à dire USL que Unsophisticated Ladies.
Effectivement.
Voilà.
Et ben voilà, je crois qu'on a dit une grande partie des choses, donc venez le 11 mars maintenant pour voir la suite et voir tout ce qu'on n'a pas spoilé pendant cette heure.
On n'a pas dit les horaires.
C'est ça commence à 20h, on aura okay. La première partie de la Fable des Arts, et puis le spectacle commencera vers 21h.
Et ben très bien. Et ben merci beaucoup.
Merci.
Et on
merci.
Se retrouvera demain pour une prochaine apérophonie.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !